France Inter.
L'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour mon cher Thomas et bonjour à tous. À la une de ce 13h, les profils des 21 suspects en lien avec les attaques des prisons ces dernières semaines. Ils ont entre 15 et 37 ans. Une violence extrême, préméditée et décomplexée, vient de préciser la procureure de Paris, vous l'entendrez. Dossier à suivre avec Jean-Philippe Deniaud. Une convention citoyenne entre juin et fin décembre pour repenser les rythmes scolaires. Qu'en pense la FCPE ? Eh bien, nous en parlerons avec son président Abdelkrim Mesbahi. Elle a une également l'armée israélienne qui s'est déployée ce matin dans le sud de la Syrie en soutien aux Druzes. Et cette expérience artistico-scientifique menée en France à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière pour mieux anticiper les maladies respiratoires. Et puis en Normandie, nous irons voir cette exposition consacrée à la carrière du cinéaste Claude Lelouch. Après ce journal, votre magazine d'investigation, Secret d'Info, Benoît Colombat, sur quel thème ?
Eh bien, en partenariat avec le Consortium international des journalistes d'investigation, nous allons lever le voile sur la façon dont la Chine traque ses opposants installés en France et comment elle instrumentalise aussi les mandats d'arrêt internationaux pour tenter de remettre au pas certains hommes d'affaires chinois.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta, les orages sont de retour.
Oui, et on en aura cet après-midi au nord de la Loire et des Pyrénées aux Alpes.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
Inter.
L'ombre de la DZ Mafia plane toujours sur les attaques menées ces dernières semaines contre les prisons en France, les intimidations envers les agents pénitentiaires, 21 suspects, tous incarcérés, dont deux mineurs, 7 prisonniers un peu partout en France. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Éric.
Service police-justice de France Inter. On va revenir avec vous dans un instant sur la conférence de presse qu'a donnée ce matin la procureure de Paris. On va d'abord l'écouter. Laure Bécuot a insisté sur le caractère coordonné, prémédité de ces opérations contre les prisons et leur personnel via notamment le canal Telegram DDPF.
L'exploitation rapide de ce canal institué Défense des prisonniers français a permis l'identification rapide de son gestionnaire et de plusieurs de ses utilisateurs. Ainsi, 4 personnes sont suspectées d'avoir utilisé ces canaux pour se faire le relais de l'instigateur et pour recruter des hommes et des femmes de main. De nombreuses autres personnes sont soupçonnées d'avoir accepté de mettre le feu, voire de faire usage d'armes à feu. Le prix de ces actions criminelles s'est situé entre 500 et 7000 euros.
La procureure de Paris, Laure Bécuot, ce matin, donc, lors de sa conférence de presse. Je reviens vers vous, Jean-Philippe Deniaud, parce que la procureure a aussi précisé les profils des 21 personnes incarcérées. Elles sont en lien, pour certaines, avec la grande criminalité organisée.
Oui, et c'est un peu le caractère déroutant de ce dossier parce que à la base, il n'y avait pas d'organisation structurée. Juste un homme, 24 ans, un détenu de la prison d'Avignon, le seul qui reconnaît aujourd'hui son lien avec la DZ Mafia. Il va créer cette fameuse boucle DDPF, Défense des droits des détenus français, et bien qu'à l'isolement, il va lancer un appel à l'action sur les réseaux sociaux. Deuxième étage de la pyramide, les 4 recruteurs qui ont choisi les cibles, parmi eux une femme qui a joué le rôle d'influenceuse, et 3 hommes, eux aussi en détention. Et puis, troisième étage, donc cette quinzaine d'exécutants, dont 2 mineurs. Certains contestent les faits aujourd'hui, d'autres les reconnaissent plus ou moins spontanément, précise la procureure, avec souvent des versions édulcorées par crainte de représailles. Et ces jeunes ont été recrutés comme de la main-d'œuvre sur les points de deal, certains parce qu'ils avaient une dette à rembourser, d'autres par fascination pour la DZ Mafia, par ces vidéos des premières actions postées sur les réseaux sociaux, assez bien faites, reconnaît le directeur adjoint de la police national, Philippe Chadris. L'enquête va donc se poursuivre maintenant pour creuser la piste du financement, les liens avec la criminalité organisée, et puis pour finir d'identifier tous les acteurs de ces 11 attaques coordonnées. À terme, les mises en cause risquent la réclusion à perpétuité pour ceux qui ont visé directement des personnels de l'administration pénitentiaire. Ceux qui ont uniquement commis des dégradations risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
Jean-Philippe Deniaud en direct du tribunal judiciaire de Paris avec les moyens techniques politique de Johanna Gabric. Une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui en France, à Saint-Étienne, à la mémoire d'Aboubacar Cissé, ce Malien de 22 ans tué la semaine dernière dans la mosquée de la Grand Combe dans le Gard. Son meurtrier, qui était en fuite en Italie, sera remis à la France avant la fin de la semaine prochaine. Il a agi dans un contexte isolé, guidé par une envie obsessionnelle de tuer, disait hier la procureure de Nîmes. Des motivations très personnelles, disait-elle, et non pas terroriste. D'ailleurs, le parquet national antiterroriste n'est finalement pas saisi. C'est ce que déplore justement l'un des avocats de la famille Cissé, maître Yacine Bozrou.
Là où il y a l'aspect de terrorisme, c'est d'une part l'acharnement. Il y a 57 coups de couteau, dont une vingtaine au niveau de la gorge, au niveau du cou. Et ensuite, surtout, il se filme en train de porter des coups et il diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Et c'est ça l'acte d'intimidation et l'acte de terreur. La procureure, je pense qu'elle a malheureusement pas la main. Vous savez qu'elle est soumise au pouvoir hiérarchique du ministre de la Justice, Monsieur Darmanin, et tout ce qu'elle dit est totalement contraire à la loi pénale, mais également à la pratique judiciaire. La pratique judiciaire, depuis plusieurs années maintenant, c'est lorsqu'il y a des soupçons de terrorisme, on saisit la justice antiterroriste, et si, au cours de l'enquête ou à la fin de l'enquête, on se rend compte que ça ne tient pas, on abandonne les charges. Là, lorsqu'il s'agit d'une mosquée qui est visée ou des fidèles musulmans, on invente une nouvelle pratique judiciaire qui consiste à écarter l'aspect terroriste en disant que le PNAC reste en observation.
Maître Yacine Bouzrou, l'un des avocats de la famille Cissé, ce matin chez nos confrères de France Info. Notez encore qu'il déconseille, cet avocat, il déconseille à la famille Cissé de se rendre lundi à l'invitation de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Cet avocat accuse le ministre d'avoir manqué de respect quand il avait qualifié Aboubacar Cissé d'individu en situation irrégulière. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à qui il a été reproché également d'avoir tardé à rencontrer la famille de la victime. Un rodéo urbain qui a viré à la confrontation avec la police hier soir, ça s'est passé à Drancy en Seine-Saint-Denis. Le parquet estimait ce matin que la séquence était encore très floue. Des agents ont été pris à partie par plusieurs individus. Un policier a fait usage de son arme, d'abord en tirant en l'air, et puis un homme a été blessé par balle, évacué à l'hôpital. Un policier s'est blessé au dos lors d'une chute et lui aussi a dû être hospitalisé. Un détenu de la prison de Bordeaux est toujours recherché, condamné à 10 ans de prison en novembre dernier pour coup mortel. Eh bien, il a été libéré par erreur mercredi à la place d'un autre prisonnier dont le patronyme a priori serait presque similaire. Un mandat de recherche a été émis en France et en Europe. Des Français vont à nouveau être tirés au sort en vue d'une convention citoyenne qu'Emmanuel Macron souhaite lancer sur les rythmes scolaires. Les travaux débuteront en juin jusqu'à la fin de l'année. C'est le temps de l'enfance à l'école que le président veut questionner. Eh bien, on va voir ce qu'en pense à présent la FCPE. Bonjour Abdelkrim Mesbahi.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Emmanuel Macron aimerait donc des journées plus favorables au développement des enfants. Est-il urgent de se pencher sur ce dossier des rythmes scolaires ?
Alors, il est urgent surtout de se pencher sur l'état de l'école dans son intégralité et de mettre l'enfant au centre des préoccupations. Et c'est une convention citoyenne qu'on a appelée avec d'autres de nos vœux depuis le mois de septembre dernier.
Ça veut dire que vous souhaitez cette convention parce que les journées d'école sont trop longues ?
Alors, c'est un point effectivement sur lequel on souhaite travailler, mais on veut aussi que l'école soit réparée, puisque on a des manques d'enseignants, on a des manques d'adultes à l'école, on a une inclusion des élèves en situation de handicap qui est très mal faite, et donc c'est surtout ces sujets que on souhaite effectivement que cette convention citoyenne puisse débattre pendant plusieurs mois, puisque j'ai cru comprendre qu'elle démarrait au mois de juin et qu'elle finirait vers la fin de l'année.
Et exactement, elle va démarrer en juin jusqu'à fin décembre. Vous êtes un peu sur la même ligne du syndicat SNEF-FSU, hein, le principal syndicat enseignant en collège et en lycée, qui affirme qu'il y a d'autres priorités que les rythmes scolaires, le manque de profs, vous l'évoquez, ou encore les salaires. Ce seul dossier des rythmes scolaires ne semble pas vous motiver à lui seul.
Alors, il ne doit pas être isolé et il faut entendre l'ensemble des personnes. En parallèle de ça, nous souhaitons aussi interroger territoire par territoire tous les parents. On va avoir des situations compliquées dans un territoire qui ne seront pas les mêmes dans un autre. Et c'est tout ça qu'on voudrait faire remonter au niveau de cette convention citoyenne. Qui va avoir
mais vous risquez d'être déçu parce que le thème, ce sera bien les rythmes scolaires et non pas le manque de profs.
Peut-être pas, puisque on est certain qu'à un moment donné, les personnes qui seront choisies et les débats qu'on organise sur l'ensemble du territoire feront sortir un certain nombre de sujets sur lesquels il va falloir apporter des réponses.
Et notamment, vous voulez revenir et remettre en haut de la pile la semaine des 4 jours et demi sur laquelle François Hollande et son ministre de l'Éducation à l'époque s'étaient cassés les dents.
Eh oui, mais absolument, mais parce que les journées actuelles sont trop longues, et effectivement, la semaine de 4 jours et demi, ça a été notre cheval de bataille, et ça l'est toujours, puisque, effectivement, c'est un rythme qui est beaucoup plus adapté, tous les biologistes l'ont prouvé, et donc c'est quelque chose qu'il faudrait remettre au goût du jour.
En quelques secondes, cette convention citoyenne, elle pourrait aussi ne déboucher sur rien. Est-ce que vous serez attentif à une application des conclusions via le Parlement ?
Alors écoutez, nous on ne va pas faire de conclusion hâtive, on est attaché puisqu'on a appelé à cette convention citoyenne, donc par contre on y mettra toute notre énergie avec l'ensemble de nos adhérents sur tous les territoires pour apporter notre contribution.
Merci bien Abdelkrim Mesbahi, président donc de la Fédération des conseils de parents d'élèves.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
L'armée israélienne s'est déployée ce matin dans le sud de la Syrie en soutien aux Druzes. Dès hier, l'État hébreu avait bombardé les abords du palais présidentiel à Damas en représailles aux violences de groupes armés proches du président syrien contre des combattants druzes. Et ce matin, l'ONU appelle Israël à cesser immédiatement ses attaques contre la Syrie. Une nouvelle fois, l'administration Trump s'en prend au gouvernement allemand. Hier à Berlin, le renseignement intérieur a classé le parti AFD comme une formation extrémiste de droite. Eh bien, il n'en faut pas plus au vice-président américain J.D. Vance d'accuser l'Allemagne de reconstruire le mur de Berlin. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Eric.
J.D. Vance qui estime donc que ce parti AFD est d'abord le parti le plus populaire et même le plus représentatif d'Allemagne.
Oui, et le ton monte à nouveau entre Berlin et Washington. Polémique dont se serait bien passé le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz à quelques jours de son investiture. Acte 1, l'Office de protection de la Constitution allemande désignée hier l'AFD parti extrémiste de droite car son idéologie dévalorise des groupes entiers de la population et porte atteinte à leur dignité humaine. Conséquence, les services de sécurité pourront plus facilement surveiller, voire infiltrer le désormais deuxième parti du pays après son score historique 20% des voix aux élections en février. Acte 2, la riposte outre-Atlantique de l'administration Trump. L'Allemagne reconstruit le mur de Berlin, fustige le vice-président J.D. Vance. Tyrannie déguisée, tonne le chef de la diplomatie Marco Rubio, et nouvelle ingérence dans la vie politique allemande après le soutien affiché de J.D. Vance à l'AFD en février et sa dénonciation du recul de la liberté d'expression en Europe. Acte 3, la réponse du ministre des Affaires étrangères allemand, c'est la démocratie, notre histoire nous a appris qu'il faut arrêter l'extrémisme de droite, référence au passé nazi de l'Allemagne en pleine commémoration de la libération des camps de la mort et alors qu'outre-Rhin, le débat sur l'interdiction pure et simple de l'AFD est relancé.
Louise Baudet, rédaction internationale de Radio France. Dans le dossier ukrainien maintenant, on notera cette phrase de Volodymyr Zelensky qui estime que Donald Trump voit désormais les choses un peu différemment depuis leur rencontre au Vatican. Et sur le dossier ukrainien, notez encore que des drones ont été lancés par la Russie ce matin. Les drones ont blessé 47 civils à Kharkiv. C'est la deuxième ville d'Ukraine. Les Roumains seront de retour aux urnes demain après l'annulation en novembre dernier d'un premier scrutin présidentiel. Le candidat d'extrême droite, le pro-russe Calin Georgescu, était arrivé en tête lors du premier tour, mais de lourds soupçons d'ingérence russe via TikTok, avait fait annuler ce résultat. Et bien, 6 mois plus tard, donc, nouvelles élections présidentielles demain, avec l'impression qu'aucune leçon n'a vraiment été retenue de l'expérience précédente, Fabien Cazot.
Les forces d'extrême droite pro-russes ne semblent pas avoir changé quoi que ce soit leur stratégie de désinformation. Bien au contraire, s'inquiète l'eurodéputée centriste Nathalie Loiseau, qui préside la commission bouclier démocratique au Parlement européen. Les narratifs pro-russes ont continué d'inonder les réseaux sociaux roumains ces derniers mois.
On voit à nouveau des tombereaux de désinformation qui tombent sur la Roumanie, expliquant que si l'extrême droite ne l'emporte pas, la Roumanie va être entraînée dans la guerre contre la Russie à très court terme et que c'est très dangereux pour le pays.
Une enquête avait pourtant été promise par la Commission européenne après le premier scrutin. On en attend toujours les conclusions. Un règlement encadrant les services numériques est désormais entré en application dans l'Union européenne, dont fait partie la Roumanie. Il est temps que la Commission agisse, s'impatiente Nathalie Loiseau.
La question, c'est de mettre en œuvre ce qu'on a décidé. Quand on parle de bouclier démocratique, la première étape de la démocratie, c'est de faire ce qu'on a décidé de faire. Si des lois ont été votées, il faut les appliquer. Sinon, je comprendrais les citoyens européens qui n'auraient pas confiance dans les politiques qu'ils représentent.
D'autres pays d'Europe centrale et orientale, comme l'Albanie et la Pologne, s'apprêtent à voter eux aussi dans les prochaines semaines, également sur fond de crainte d'ingérence russe via les réseaux sociaux.
Fabien Cazot à Bruxelles. En football, 46 ans après ses derniers pas en première division, le Paris FC, détenu par la famille de Bernard Arnault, le Paris FC a officiellement validé hier soir sa montée en Ligue 1 la saison prochaine, aux côtés du PSG. Et le président du club, Pierre Ferracci, n'a pas l'intention de venir en Ligue 1 pour faire de la figuration.
On va être prudent, on va d'abord essayer de se maintenir, hein, parce qu'on a des investisseurs et des actionnaires puissants. Après, c'est sûr que la famille aura des ambitions élevées et qu'à un moment ou à un autre, après s'être installée dans la première partie du classement, elle visera l'Europe.
Vous allez forcément en Ligue 1 affronter votre voisin, le PSG. À quoi ça peut ressembler un match entre Paris FC et Paris Saint-Germain ?
Dans un premier temps, on va éviter que ce soit trop déséquilibré parce qu'ils dominent de la tête et des épaules le championnat. Et puis, je pense qu'il y aura beaucoup de passion et on aura des supporters des deux côtés qui auront envie de gagner le derby, comme entre Lens et Lille ou entre Saint-Etienne et Lyon. Donc ça va être d'abord passionnant. Vous savez, le football, c'est beaucoup de raisons, mais beaucoup de passion aussi. Et les derbies sont là pour mettre du piment dans ces championnats.
Pierre Ferracci, le président du Paris FC, avec Adrien Beck. L'art peut-il nous rendre moins anxieux ? Ce n'est pas l'épreuve de philo. Un tableau nous permet-il de mieux respirer ? Une expérience est menée en ce moment à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière avec une œuvre d'art numérique baptisée Réespiration, une forme de robot artistique qui explore les interactions entre l'humain et la machine. Le but, c'est notamment de sensibiliser à l'importance de la respiration, nous sensibiliser aux maladies respiratoires. Nina Sobetsky s'est rendue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière devant cette œuvre d'art.
On s'assoit face à ce qui ressemble à un torse en train de respirer. Un objet rectangulaire aux bords arrondis, recouvert d'une broderie argentée en perles et tubes de verre, l'artiste Samuel Bianchini.
Ce que va faire l'œuvre, c'est qu'elle va essayer de s'allier à la respiration de cette personne qui se trouve en face d'elle, pour ensuite, tout doucement, essayer de l'accompagner pour qu'elle soit plus paisible.
Cette respiration est créée grâce à l'intelligence artificielle à partir d'enregistrements de personnes malades et non malades et elle s'adapte grâce à une caméra thermique installée en dessous de l'œuvre.
On analyse le visage de la personne et on va chercher ses narines. On analyse le flux thermique entrant et sortant qui nous permet de déduire la dynamique respiratoire de cette personne.
Une œuvre qui explore donc le pouvoir de l'empathie respiratoire. Thomas Similowski, professeur de pneumologie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
On sait très bien que la respiration est un gros facteur de calme. Simplement, on se calme en faisant des exercices. Là, l'idée, c'est est-ce que la respiration peut calmer de façon passive ? Je suis juste assis devant une œuvre. Deuxième question, si maintenant j'ai du mal à respirer, parce que j'ai une maladie respiratoire, est-ce que le fait d'avoir une respiration apaisée devant moi va me permettre de me sentir mieux quand je respire ?
Et cette œuvre a aussi vocation à devenir un dispositif de soins. Les résultats de cette expérimentation sont attendus d'ici la fin de l'année.
Réespiration, cette exposition donc tous les mercredis et samedis 14 à 18h jusqu'au début du mois de juin. Shabadabada en Normandie pour terminer avec Claude Lelouch qui est venu inaugurer à Villers-sur-Mer une exposition retraçant sa carrière là où le cinéaste a ses habitudes. Claude Lelouch, itinéraire d'un enfant gâté, c'est le titre de cette exposition avec une série de photographies issues des archives de Paris Match. L'exposition longe la plage de Villers-sur-Mer. Reportage ici Normandican, Philippe Thomas.
Appareil photo à la main, Guy Villersois depuis 30 ans ne rate rien de l'inauguration. Et ça tombe bien, le réalisateur se prête au jeu des questions et des selfies.
C'est quelqu'un de bien, on l'aime bien, on l'a toujours aimé. Hein. Bah, le cinéma, puis alors Villers, il adore Villers, puis je le crois sincère. On le croise de temps en temps, il est très accessible je dirais, très sympathique. Puis alors le voir dans cette forme-là, là, je dis... Moi, je viens de prendre 80 ans il y a quelques jours. Je me dis que j'espère vieillir comme lui.
À 87 ans, en effet, Claude Lelouch apparaît en forme et regarde sans mélancolie les photos exposées le long de la promenade qui porte son nom.
C'est comme si vous regardiez les photos de vos enfants. C'est 51 films, c'est mes enfants. C'est un album de famille. Et ces 51 films ont été des gros succès ou des échecs, mais je les aime tous parce que je les ai tous faits avec amour, avec tendresse. J'ai eu envie de les faire, voilà. Non, je regrette rien, vous savez, comme dirait Edith Piaf. Vraiment, je regrette rien. Je sais pas qui a rempli mon agenda à ma naissance, mais je me suis pas ennuyé une seconde. C'est ça qui compte.
Et ce n'est pas fini. Le réalisateur va bientôt se lancer dans son 52e long métrage qui sortira d'ici 2 à 3 ans.
L'exposition Claude Lelouch, itinéraire d'un enfant gâté à Villers-sur-Mer jusqu'au 2 novembre. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien les orages vont se multiplier cet après-midi.
Oui, ils seront plus nombreux et stationnaires au nord de la Loire avec un risque de fortes averses qui pourraient donner des cumuls importants, ce qui peut occasionner des inondations éclairs. On surveille particulièrement la Seine-Maritime. Plus au sud, sur un axe Pyrénées, Massif Central et nord de la Bourgogne, là on aura des orages qui vont se déplacer beaucoup plus vite mais qui seront aussi plus forts avec un risque de grêle. Quelques coups de tonnerre sont aussi attendus en région PACA où le ciel va rester bien nuageux, puis entre les deux, des côtes aquitaines, Poitou-Charentes jusqu'au nord de la Bourgogne. Là, on devrait rester au sec avec un petit peu plus de soleil. Je mets du conditionnel parce que les orages peuvent quand même déborder, donc on surveille tout ça.
En revanche, on le vérifie déjà, les températures commencent à baisser.
Oui, c'est même déjà assez frais sur les bords de Manche par rapport aux températures de cette semaine. 16 degrés à Cherbourg cet après-midi. On perd quelques degrés partout ailleurs, plus que 21 degrés à Lille contre 27 hier, 22 à Toulon, 24 à Reims, 25 à Bordeaux et Paris. La maximale de 26 degrés sera pour Orléans, Strasbourg, Lyon ou Toulouse.
La météo de Céline Dacosta.